Thierry Santin met un terme à sa carrière politique et à ses mandats. Annonce faite ce matin, il sera remplacé au gouvernement par Naya Wateu. Manifestation du FLNKS devant le Haut Commissariat. Près de 200 manifestants redisent leur opposition au report des provinciales et à l'accord de Bougival. On attend la décision de l'ADEC sur l'ouverture ou non des cantines scolaires à partir de lundi après l'adoption d'une contribution votée hier au Congrès. Invité ce matin, le directeur de l'enseignement catholique a dénoncé des contre-vérités énoncées lors de cette séance. En métropole, les députés adoptent un texte pour demander au gouvernement de durcir le ton vis-à-vis de l'Algérie. C'est le premier texte proposé par le Rassemblement national voté par l'Assemblée. Du nouveau, dans la quête sur le vol des bijoux du Louvre, 5 nouvelles personnes ont été interpellées. Dans la page sport, nous ferons le point sur le Masters 1000 de Paris. Le monégasque Valentin Vacherot s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Un journal qui se prolongera par le magazine Transparence. Comme tous les vendredis, votre invité sera aujourd'hui Virginie Rufnac.
Oui, c'est la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui sera l'invité du magazine Transparence. Nous lui demanderons où en est l'accord de Bougival après l'adoption de la loi organique par le Sénat et quelles sont les prochaines étapes de sa mise en œuvre alors que sa référence a été gommée dans l'intitulé de la loi. Nous l'interrogerons également plus globalement sur l'actualité politique calédonienne et bien sûr sur la prochaine visite de la ministre des Outre-mer. On se retrouve en compagnie de Virginie Rufnac d'ici une demi-heure, juste après votre journal, Jean-François.
Et à 16h45, rendez-vous pour le Club Politique.
Au sommaire ce soir, bien sûr, l'adoption de la loi organique sur le report des provinciales et les interrogations concernant la modification de son intitulé par la commission mixte paritaire. Nous reviendrons aussi sur le positionnement du FLNKS qui manifeste ce matin et sur sa volonté ou non de revenir autour de la table des discussions. Et puis nous nous interrogerons enfin sur la visite de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui sera là dans quelques jours. Voilà pour le sommaire de ce club politique qui débute comme tous les vendredis à 16h45.
Thierry Santin met donc fin à sa vie publique. Il démissionne de l'ensemble de ses mandats politiques à compter de demain et il s'en est expliqué ce matin, Nicolas Legrand.
Oui, un choix personnel, mûrement réfléchi. En ouverture de la conférence de presse ce matin, Thierry Santin a lâché que ce n'était pas un scoop. Effectivement, l'information avait fuité depuis plusieurs jours maintenant, mais Thierry Santin tenait ce matin à tordre le cou à certaines rumeurs, notamment de départ vers la Polynésie française ou encore de mésentente avec le président du gouvernement Alcide Ponga. C'est un choix personnel qui remonte à plusieurs mois en arrière et qui est avant tout un choix professionnel, nous a dit Thierry Santin.
Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. J'ai pris la décision de démissionner de mes fonctions de membre du gouvernement, mais également de membre du Congrès. C'est une décision qui a mûri depuis plusieurs mois déjà, qui aurait dû se concrétiser déjà à la chute du 17e gouvernement, puisque ma volonté est de retourner dans une activité professionnelle civile. Et à la demande d'Alcide, que j'apprécie particulièrement, j'ai décidé de l'accompagner encore cette année, avec l'objectif d'aller jusqu'au mois de novembre, puisque les élections devaient se tenir en novembre à ce moment-là. Et donc je reste finalement sur cette position, et j'en ai parlé avec Alcide, et les choses se mettent en place. C'est un choix personnel et professionnel, une volonté effectivement de changer de monde, de continuer à faire de mon mieux là où je serai maintenant, puisque en l'occurrence je vais travailler dans une société du secteur minier, et je considère que la mine, ça reste un domaine important pour les Calédoniens, pour l'avenir de la Calédonie. Et je vais essayer de faire encore une fois de mon mieux dans ce nouveau domaine.
Thierry Santin va en effet diriger la SPMSC, la Société de Participation Minière du Sud Calédonien, qui porte les parts des provinces dans l'usine du Sud. C'est donc une page qui se tourne pour celui qui a été élu pour la première fois en 2014 et qui aura exercé les plus hautes responsabilités en tant que président du Congrès d'abord, puis président du 16e gouvernement ensuite. Il évoque ses souvenirs comme sa première participation en tant que représentant de la Nouvelle-Calédonie au Forum des îles du Pacifique, c'était à Tuvalu en 2019, ou encore la gestion de la crise Covid.
Je retiens d'excellents souvenirs. Je retiens aussi surtout une période extrêmement difficile quand même que la Calédonie a traversée. Cette mandature ne nous a pas épargnés, que ce soit la crise Covid que nous avons connue, que ce soit les exactions bien sûr, mais que ce soit la crise économique dans laquelle nous sommes également depuis de nombreuses années. Je parle bien sûr aussi de la crise institutionnelle, même si je fonde beaucoup d'espoir sur l'accord de Bougival qui, je crois, est un bon accord qui équilibre finalement les aspirations des deux légitimités calédoniennes.
Thierry Santin qui quitte le gouvernement pour des raisons personnelles mais qui estime qu'il le fait à une période qui permettra aux membres qui récupérera la charge du budget d'effectuer ses propres arbitrages.
Le mois de novembre est effectivement un bon timing dans le cadre de la préparation du budget de l'année prochaine, que la personne qui va prendre cette compétence en main puisse avoir le temps de s'en imprégner complètement et de mettre sa touche finalement dans ce budget prochain. Je ne pense pas qu'il aurait été pertinent de faire la moitié du budget et que la personne ensuite fasse la fin ou exécute finalement un budget qu'elle n'aura pas elle-même préparé et organisé. Donc voilà, je pense que c'est le bon timing, c'est maintenant qu'il fallait partir pour que la préparation se fasse dans les meilleures conditions et que le budget qui sera adopté corresponde bien à celui qu'il aura préparé.
Thierry Santaki sera remplacé au gouvernement par Naya Wateu, qui était la suivante de liste au moment de l'élection du 18e gouvernement début janvier. Cela pourra entraîner un changement dans la répartition des secteurs entre les membres du gouvernement. Et cette démission de Thierry Santa au gouvernement et surtout la montée de Naya Wateu implique aussi des changements au Congrès et à la province sud, mais qui n'impactent pas les équilibres politiques. Jean-Gabriel Favreau siégera au Congrès et Julien Tranap fera son retour à la province sud.
Petite mobilisation pour le FLNKS qui avait appelé à la manifestation ce matin au centre-ville face au Haut-Commissariat pour dire non au report des provinciales et non à Bougival. Ce rassemblement se tient depuis 8 heures ce matin, mais quelques 150 à 200 personnes seulement ont répondu à l'appel. Une délégation d'une dizaine de personnes conduite par Hervé Théin Taouva et Marie-Pierre Goyette est reçue en ce moment par le Haut-Commissaire. Cette mobilisation est organisée au lendemain de l'adoption par le Parlement de la loi organique et à quelques heures de l'arrivée de la ministre des Outre-mer sur le territoire. Elle doit se terminer à 14h. En marge de cette manifestation, il a été annoncé que le bureau politique du FLNKS se réunira demain à Nakheti pour faire le point sur sa stratégie. L'Union calédonienne, de son côté, a annulé son congrès qui devait se tenir à partir du 11 novembre à Maré. Elle réunira un comité directeur le 22 novembre à Wailou et son congrès annuel devrait se tenir finalement au mois de janvier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 67% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que lors de son prochain séjour en Nouvelle-Calédonie, la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, arrivera à ramener tout le monde autour de la table. Ils ne sont que 33% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à la démocratie participative au Congrès avec une application citoyenne dans les débats, voire dans la fabrication des textes? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Justice, en bref, un homme de 30 ans condamné à 10 mois de prison ferme pour des exactions à Thiau. Très défavorablement connu de la justice, il a reconnu avoir agi sur ordre de la CCAT. L'homme a été reconnu coupable de vol de matériel et de carburant sur le site SLN et il a également mis plusieurs fois le feu en bord de mer. Et puis toujours au chapitre justice, une famille de Marais porte plainte après la mort d'un homme de 31 ans vendredi 17 octobre. L'airbag de sa voiture aurait explosé alors qu'il était à l'arrêt puisque le véhicule n'était pas en état de rouler. La famille a porté plainte pour homicide involontaire par personne morale pour savoir s'il s'agit du problème des airbags défectueux Takata. Le procureur de la République devrait communiquer sur cette affaire dans la journée. Il est 11h38, nous allons marquer une pause dans ce journal et dans un instant nous verrons les problèmes que rencontre l'ADEC. Il n'y a toujours pas de décision sur la réouverture ou non, l'ouverture ou non des cantines lundi.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Les cantines des établissements scolaires de la TEC ouvriront-elles lundi? On attend toujours la décision, elle n'a pas encore été prise officiellement. Hier, les élus du Congrès ont voté, je vous le rappelle, le versement d'une contribution de 400 millions en faveur des enseignements privés pour leur permettre d'assurer leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année. La DEC doit recevoir un peu plus de 300 millions et prendra donc une décision sur l'ouverture ou non des cantines lundi, une fois fixées les conditions et le délai de versement de cette contribution. Lors des débats autour de cette contribution hier, certains élus ont tenu des propos qui ont mis le directeur de l'enseignement catholique en colère. Manuel Van Arscott était ce matin notre invité à 7h30.
Devant vous là ce matin, c'est un homme en colère qui se présente. Hier, la DEC, par ma personne, a été, je mesure le poids de mes mots, a été insultée. On nous accuse de mauvaise gestion. Des contre-vérités, pour ne pas dire utiliser d'autres mots, ont été utilisées en séance publique contre la DEC. quand j'entends que 100% d'une contribution a été votée, alors qu'il n'y a que 90%...
A été versée, merci.
Et quand j'entends que 75% d'une contribution a été versée, alors qu'en réalité, 75% moins 10%, quand j'entends un maire dire que c'est une énième subvention exceptionnelle, ce n'est pas une subvention exceptionnelle. Ces 300 millions, c'est juste, on arrive juste au montant que nous aurions dû recevoir pour l'année 2025.
Et avant de décider de l'ouverture ou non des cantines lundi, le directeur de l'enseignement catholique demande des précisions sur les conditions et le délai de versement de cette contribution.
Il est bien marqué, cette contribution, vous voyez, le Congrès, il parle quand même correctement, il parle bien de contribution, quand des élus parlent de subvention. Cette contribution permet d'éviter une cessation de paiement. Et juste en bas, il est marqué, les fonds seront versés sur les modalités suivantes. 50% à la signature de la convention, on ne dit pas quand, 25% au moment du déclenchement de l'étude, au plus tard le 15 décembre, et 25% à la restitution de l'étude. Je ne vois pas une étude se faire en 3 jours, moi. Ils reconnaissent qu'il y a une situation de cessation de paiement d'urgence, et on me dit, on vous donnera les sous plus tard.
Dans l'amendement qui a donc été adopté pour permettre le versement de ces 300 millions, les élus réclament un nouvel audit, une nouvelle étude, vous l'avez entendu, sur le fonctionnement de la DEC. Depuis 2000, les audits et rapports se sont succédés par la province sud, par la DEC elle-même sur demande des syndicats, par la chambre territoriale des comptes et bien sûr par le commissaire aux comptes. Ils n'ont souligné aucune anomalie financière, a expliqué Manuel Van Arscott, qui s'étonne de cette nouvelle demande.
Il va servir à quoi ? À constater que tous les autres disaient la vérité ? Ensuite, on nous demande à nous un audit. Pourquoi pas ? Allons-y. Il y a des personnels élus, quand nous avons été reçus le 9 octobre au Congrès, des personnels élus, officiellement, qui m'ont dit dans les yeux, votre fonction accueil, internat et cantine, votre fonction accueil coûte moins cher chez vous qu'au public. Ça a été dit, ça a été répété. Et c'est à nous qu'on demande un audit. Et quand je demande les chiffres du public, personne, écoutez bien, personne, je l'ai encore demandé la semaine dernière, samedi dernier, à Madame Chamorro, personne n'est en capacité de nous les donner. On ne sait pas combien du public. Mais c'est nous qui gérons mal et c'est nous qui coûtons trop cher. Non, le final, il est là. Donc l'amendement, dans les exposés des motifs, ils veulent absolument nous faire entrer à carte scolaire pour pouvoir dire là nous fermerons pas, c'est nous qui décidons.
Manuel Van Arscott, le directeur de l'enseignement catholique, qui était notre invité ce matin à 7h30. Cette situation de la DEC fait également réagir l'Union des groupements de parents d'élèves. Ses membres déclarent soutenir la DEC, mais ne pas comprendre qu'un travail coordonné ne soit pas mis en place avec les parents d'élèves impactés par ces décisions. Jean-François Toutiquian est le secrétaire de l'UGPE.
On a pris bonne note des difficultés financières rencontrées par la DEC, qui sont en grande partie dues par le non-versement de subventions qui leur sont dues. Mais par contre, ce qu'on conteste, c'est la méthode employée, c'est-à-dire fermer les établissements scolaires et interdire aux parents de servir les repas, d'apporter des gamelles, d'apporter des sandwichs à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement, ça nous semble une décision trop dure. Il faut à tout prix que quand il y a des actions, elles soient décidées en concertation avec les APE, avec les parents, pour qu'ensemble, on décide du meilleur moyen d'impacter le moins durement possible les enfants. On leur demande également de rembourser les familles pour tout le trop-perçu qui aura été effectué et pour que les parents qui sont déjà dans des difficultés financières importantes puissent récupérer au moins l'argent des repas qui n'auront pas été servis.
Et lors de cette conférence de presse organisée ce matin, l'UGPE a également alerté sur des faits de harcèlement au collège de Connay et a pointé du doigt l'organisation du calendrier des examens de fin d'année. Il n'est pas, selon eux, adapté au territoire et trop calqué sur Paris. En bref, le gouvernement veut inciter les collectivités à favoriser les achats locaux dans le domaine de la tech. Hier, une table ronde s'est déroulée à la station N dans le cadre du programme « Je choisis la French Tech ». Le membre du gouvernement en charge du secteur, Christopher Gigès, y a assisté. Il a annoncé la création prochaine d'un Small Business Act calédonien orienté tech, inspiré du modèle américain. Ce dispositif engagera les collectivités à favoriser les achats locaux, à réserver certains marchés aux petites entreprises et à encourager la commande de solutions innovantes. La signature de la charte est prévue pour début décembre avec une mise en œuvre opérationnelle dès 2026. Et puis un nouveau radar météo dans le Nord. Il sera mis en place sur le site de la mine SLN de Copéto, l'ancien situé à Thiébaghi ayant été détruit. Les travaux permettront à terme de rétablir la couverture radar sur le Nord. Il s'agit de la première étape du projet de renouvellement des 3 radars météo de Nouvelle-Calédonie mené dans le cadre des contrats de développement entre l'État et la Calédonie 2017-2027. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie se préparent à la période des cyclones qui s'ouvrira administrativement parlant demain. Les FANC organisaient ces derniers jours l'exercice Manou, exercice annuel qui vise à renforcer les capacités d'intervention des FANC en cas de catastrophe naturelle. Cet exercice organisé par la base aérienne 186 a mobilisé plusieurs dizaines de militaires et de nombreux moyens aériens. Il est destiné à tester les capacités de projection rapide des hommes et des matériels. Le retour d'Air New Zealand en Nouvelle-Calédonie depuis plus d'un an et demi à la suite des émeutes de 2024. La compagnie aérienne néo-zélandaise, pour d'évidentes raisons de sécurité, ne desservait plus l'aéroport de Latontuta. Retour à la normale dès demain avec une première liaison aller-retour opérée entre Auckland et Nouméa. Un retour d'Air New Zealand qui est une très bonne nouvelle, indique Vaïa Froger, la présidente du syndicat des agences de voyage.
C'est en effet une excellente nouvelle. D'abord pour nos clients et pour les consommateurs, pour les voyageurs calédoniens, puisque ça permet d'avoir une compagnie supplémentaire qui touche le territoire. Et puis ça leur offre une occasion supplémentaire d'aller visiter ce beau pays voisin de chez nous. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nos clients, c'est une bonne nouvelle pour les agences de voyage parce que ça va nous permettre de travailler plus avec une fréquence supplémentaire. Donc oui, on est content. Pour le moment, Air New Zealand revient avec une rotation par semaine, le samedi, par la suite, en fonction des remplissages. On espère bien évidemment remplir ces avions et ceux d'Air Calin qui dessert aussi cette destination. Mais voilà, plus il y aura de fréquentation dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire des touristes néo-zélandais qui viennent en Calédonie et nous, des touristes calédoniens qui vont en Nouvelle-Zélande, plus les avions seront remplis, plus ça encouragera la compagnie à rajouter des fréquences.
Le vol NZ-932 en provenance d'Auckland devrait se poser demain à 10h10 sur la piste de Tontuta. Le vol retour à destination d'Auckland devrait décoller à 11h20. Dans le même temps, et toujours au chapitre de l'actualité aérienne, Air Austral et Air Calin ont un partenariat pour relier la Réunion à la Nouvelle-Calédonie via Bangkok, Léana.
Oui, cette liaison simplifiée et sera effective à compter de demain. Dans le sens Réunion-Nouméa, les vols seront chaque mercredi à 20h pour une arrivée le vendredi à 6h30 du matin à Tontuta. Le trajet Nouméa-Réunion s'effectuera quant à lui chaque mercredi et samedi avec un départ à 1h30 du matin. L'ensemble du parcours se fera avec un seul billet et la continuité des bagages sera de bout en bout. Concernant les prix, un tarif unique de 202 000 francs aller-retour en classe économique est proposé. Ce partenariat confirme l'engagement des compagnies aériennes de faciliter les échanges entre les régions ultramarines françaises. Il y a plusieurs années, une ligne Nouméa-La Réunion avait déjà été proposée par Air Austral avant d'être stoppée.
Radio Rythme Bleu, 11h48.
Quelques rendez-vous à noter aujourd'hui. D'abord, pour parler de la grande finale de l'opération Chante ma ville, organisée par la mairie de Nouméa. Grande finale qui a lieu ce soir à partir de 17h30 dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville. 12 finalistes sont engagés. Il ne vous avait pas échappé que c'était Halloween aujourd'hui et plusieurs rendez-vous pour les sorciers en herbe sont prévus. L'aquarium des Lagons organise entre 18h et 21h ce soir des animations autour de cette fête avec un dress code particulier, pirate ou pirate fantôme pour les participants. Pas de vente de tickets sur place, les réservations se font sur le site Etiquette. Le Mont d'Or organise de 16h à 21h une soirée Halloween au parc Paul Bloch à Ploum, avec bal, défilé de l'horreur, concours de déguisement et show spectacle ou encore une chasse aux bonbons. Notez que la maison de Michel et Raymond Martin s'est elle transformée en maison de l'horreur à l'occasion d'Halloween. Elle est ouverte de 18h à 22h ce soir et demain aux 2 rues du Pasteur Béninus à Lanzvata. Enfin, notez que le centre culturel du Mont d'Or à Boulari accueillera le 7e festival international de magie de Nouvelle-Calédonie à partir de ce soir. Les Calédoniens découvriront 5 artistes internationaux autour de Guy Raguin. Les réservations se font sur etiquette.nc. L'actualité dans la région est Lactalis s'implante en Nouvelle-Zélande. Le géant français des produits laitiers vient de racheter des parts dans la plus grosse coopérative laitière néo-zélandaise. Il récupère ainsi une part des actifs et quelques produits phares. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette vente a été approuvée à une écrasante majorité des agriculteurs kiwis, actionnaires de Fonterra. Ils ont en effet été 88,47% ont voté en faveur de la résolution lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en ligne. La session porte notamment sur les beurres Encore et Mainland, lesquels ont bâti la réputation mondiale de Fonterra dans le domaine laitier. Leur vente, qui a été arrêtée à un montant supérieur à 250 milliards de nos francs, représente l'une des plus importantes cessions d'actifs de l'histoire des entreprises néo-zélandaises. Nous allons pouvoir concentrer nos efforts sur les domaines dans lesquels nous excellons, a déclaré le président de Fonterra, Peter McBride. Le géant Lactalis s'est quant à lui félicité de l'acquisition des actifs du groupe Encore Mainland. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h51, le temps de marquer une nouvelle pause avant de se retrouver dans un petit instant pour l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ce sont les beaux jours. Profitez de votre extérieur à petit prix chez Jardiland. Du 20 octobre au 9 novembre, découvrez le salon de jardin Miami, 8 places, à 119 990 francs seulement, au lieu de 149 990 francs. Jardiland de Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Et les commentateurs politiques parlent d'un événement majeur dans la vie politique. Cette nuit, pour nous, les députés ont adopté à une voix près un texte proposé par le Rassemblement national. Après des mois de tensions, ce texte appelle le gouvernement à durcir le ton vis-à-vis de l'Algérie en dénonçant l'accord franco-algérien de 1968. Ce texte a reçu le soutien des députés UDR, Droite républicaine et Horizon. C'est donc une victoire pour le Rassemblement national car c'est la première fois qu'il parvient à faire adopter l'un de ces textes. Marine Le Pen, chef de file des députés RN, ne boudait pas son plaisir.
C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national. Je vois que la gauche est mauvaise perdante. Il faut qu'ils comprennent que la démocratie est ainsi faite que lorsqu'il y a une voix de plus pour voter un texte, eh bien ce texte passe.
Mais l'adoption de ce texte n'a toutefois pas d'implication immédiate puisque seul le président de la République peut dénoncer un accord international. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu ne parle pas de dénonciation de l'accord franco-algérien. Il se dit plutôt favorable à une renégociation.
La politique étrangère de la France, elle n'est pas faite par des résolutions au Parlement, ce qui ne m'empêche pas de respecter le vote de ce matin. Est-ce qu'il faut abroger l'accord de 68 ? Je vais vous répondre autrement, je pense qu'il faut le renégocier. Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque. Je considère que le président de la République, et je crois l'a dit à nombreuses reprises, que désormais, il faut regarder à ce que la relation avec l'Algérie reparte fondamentalement de nos propres intérêts. Et c'est pour ça que la renégociation de l'accord, en regardant nos intérêts de sécurité, peut-être aussi d'ailleurs des intérêts économiques, mérite à mon avis que l'on s'y mette. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un débat de pure politique politicienne sur le sujet, il faut chercher l'efficacité. Parce que c'est ce que nous demandent aussi nos compatriotes en la matière. Et donc il faut être pragmatique.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu. Venons-en à l'enquête sur le vol des bijoux du Louvre. L'enquête qui avance, puisque les deux premières personnes interpellées ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Mais cette nuit, pour nous, cinq autres personnes ont été interpellées. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Des cibles prioritaires pour les enquêteurs, dont un homme soupçonné d'avoir été présent sur les lieux du cambriolage. Écoutez Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC.
Il y a eu sur une des personnes une ADN qui a matché. Certainement une personne très précieuse pour nous révéler beaucoup de choses par rapport à ce cambriolage.
Selon les informations d'Europe 1, il s'agirait d'un des deux motards qui attendait les malfrats sur la route pour ensuite prendre la fuite. Quant aux quatre autres suspects, des proches, les enquêteurs cherchent à savoir s'ils sont impliqués ou non dans ce cambriolage. Écoutez Axel Ronde.
On est en train d'analyser les téléphonies mobiles, toutes les données technologiques que peuvent avoir ces individus en leur possession et qui va nous permettre de bien pouvoir identifier l'ensemble du commando et l'ensemble des protagonistes et certainement les bijoux puisque c'est la priorité numéro une des enquêteurs.
Tous interpellés hier soir, leurs gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures, soit jusqu'à dimanche soir.
Autre braquage qui s'est déroulé dans le 7e arrondissement de Lyon. Un commando lourdement armé a attaqué une raffinerie d'or et de métaux précieux avant de prendre la fuite avec son butin. Et l'attaque a été violente, explique Sébastien Gendreau du syndicat Police Unité.
Ce sont des professionnels qui ont procédé au braquage cet après-midi. Vu le mode opératoire qui a pu être constaté, les armes de guerre, explosifs, a priori, on peut laisser penser qu'il y a quand même derrière une organisation. Et c'est évident que c'est une équipe de braqueurs qui est aguerrie.
Et après une course-poursuite dans les rues de Lyon, la BRI a réussi à bloquer le fourgon des six malfaiteurs qui ont tous été interpellés. Leur butin, principalement des lingots d'or, a été immédiatement récupéré. L'actualité à l'étranger, le président Trump ordonne à son ministre de la Défense de relancer les essais nucléaires. Décision prise alors que le président américain a rencontré hier son homologue chinois et que la Russie a procédé ces derniers jours à des essais de missiles et de drones armés de charges nucléaires. Cela faisait 33 ans que les États-Unis avaient cessé leurs essais, mais Donald Trump veut faire passer des messages, explique Emmanuel Dupuis. C'est le président de l'Institut Prospection et Sécurité en Europe.
Les États-Unis veulent donner un double message vis-à-vis de la Chine en voulant montrer leur supériorité de leurs armes nucléaires et puis évidemment vis-à-vis de la Russie. Cette annonce américaine advient après que le président Poutine ait fait une annonce du test de deux armes à propulsion nucléaire.
Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospection et Sécurité en Europe. Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Il nous reste à parler sport. Ce sera après la dernière pause de ce journal. Il est 11h56. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pourquoi tu souris bêtement ?
Bah, on est le 4.
Oh, tu y as pensé, mon amour.
Comment tu veux que j'oublie le Happy Day ? C'est tous les 4 du mois au Complexe 4. Il y a moins 10% sur une sélection d'articles chez C-Local, la Maison du Pain et C-Gel.
Happy Day ! Et notre anniversaire de mariage ?
Oui, bon, oui, non, mais ça va, je peux pas penser à tout non plus.
Le Happy Day, c'est tous les 4 du mois au Complexe Le 4. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Plus d'infos sur Facebook Le 4. Faites vos courses autrement.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province sud.
Et ouais !
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Allez, parlons tennis avec la suite du Masters 1000 de Paris sur les courts de la Défense Arena. On jouait cette nuit les huitièmes de finale de la compétition. Et le monégasque Valentin Vachereau a encore brillé devant le public parisien. Titulaire d'une wild card, c'est-à-dire une carte d'invitation, il a éliminé en 2-7 le britannique Cameron Norrie, 31e joueur mondial et tombeur de l'espagnol Alcaraz au tour précédent. Victoire de Vachereau en 2-7, 7-6, 6-4, écoutez-le.
J'ai pu kiffer à fond. Je suis arrivé détendu sur le match. J'ai pu lâcher mes coups direct sur les premiers jeux, même si Cameron jouait super bien. Puis j'ai l'impression que j'ai commencé à aller chercher le public à vraiment un moment où je sentais que j'en avais besoin. Puis c'est super, le public a répondu complètement présent. Ils ont participé au match de la meilleure des manières. Tout le monde a adoré le moment, tout le monde a adoré le match et moi le premier, ouais.
En quart de finale, Valentin Vachereau sera opposé au Canadien Félix Auger-Aliassime qui a battu l'Allemand Daniel Altmaier. Ça passe également pour l'Australien Alex de Minaur qui a facilement disposé du Russe Karen Khachanov. De Minaur sera opposé au Kazakh Alexander Bublik, tombeur de l'Américain Taylor Fritz. Et puis l'Américain Ben Shelton a battu le Russe Andrei Rublev. Qualification également d'un autre Russe, Daniil Medvedev, et de l'Italien Yannick Sinner. On termine avec un mot de cyclisme sur piste et plusieurs Calédoniens qui participent au championnat de France sur le Vélodrome de Loudéac en Bretagne. Enzo Martoreggio et Chad Charette sont inscrits dans le tournoi de vitesse cadet. Ils participeront à la demi-finale la nuit prochaine pour nous. Après avoir remporté les huitièmes de finale puis les quarts, avant eux, Kéril Moutry en junior 2 a raté sa poursuite, mais il s'est ressaisi sur l'élimination en prenant la cinquième place. On retiendra que Louis Chavitz prend également une cinquième place dans le tournoi de vitesse junior fille.